Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de cette édition de midi, la République démocratique du Congo précise, président ce mois de juillet, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette responsabilité internationale lui permet d'apporter son expertise, notamment sur la gestion des ressources naturelles, avec une approche innovante. Pas d'argent, pas de services rendus. Les agents prestataires engagés dans la riposte contre Ebola au centre des traitements de Rwampara ont décidé de suspendre leurs activités jusqu'à leur paiement. Nous sommes à Ituri. Notre invité est Crispin Bolela Borilgenga, directeur du département charge du développement communautaire de la société Kalima Mining Company. Il revient sur les différents projets réalisés par l'entreprise en faveur de communautés locales pour le développement. Je suis René Linti Bonera Idi Amin à la présentation de cette session. Comment transformer les ressources naturelles en moteur de paix plutôt qu'en facteur de conflit? C'est la réflexion portée par la République démocratique du Congo lors d'une réunion informelle présidée lundi à l'ONU par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner. La rencontre était consacrée à l'évaluation du déficit normatif en matière de ressources naturelles et de paix. Dans son intervention, la ministre d'État a appelé la communauté internationale à dépasser une approche centrée uniquement sur la gestion des conflits afin de promouvoir une gouvernance responsable de ressources naturelles comme levier de prévention dans le plein respect de la souveraineté des États. On écoute Thérèse Kayikwamba Wagner dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Les ressources naturelles occupent une place centrale dans les grands équilibres économiques et géopolitiques. Elles sont indispensables à la transition énergétique, à l'innovation technologique, au développement industriel et à la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour de nombreux pays, elles représentent une formidable opportunité de croissance et de transformation économique. Mais nous savons aussi que dans les contextes de fragilité ou de conflit, ces mêmes ressources peuvent alimenter des économies de guerre. Et l'enjeu ne se limite pas au financement direct de groupes armés par la vente de minerais. Il s'agit d'une économie politique plus large, dans laquelle le contrôle des sites d'extraction, des corridors commerciaux, des systèmes de taxation et des flux financiers permet de soutenir la violence, de consolider une emprise territoriale et parfois de substituer une autorité parallèle à celle de l'État. C'est ce mécanisme qui fait de cette question un problème récurrent de paix et de sécurité, observé dans plusieurs situations inscrites à l'agenda du Conseil, autour de ressources aussi différentes que les minerais, les diamants, l'or, le bois, le pétrole ou le charbon de bois.
Parlons toujours ressources naturelles où la société Manono Lithium, basée dans la province d'Itanganyika, bénéficiera de l'appui du ministère du Commerce extérieur pour l'exportation de ses minerais stratégiques vers les marchés internationaux. L'annonce a été faite lundi à Kinshasa à l'issue d'une rencontre entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, et un représentant de l'entreprise. Où en est-on aujourd'hui avec le projet d'exploitation de lithium de Manono? Réponse avec Paulin Munanga.
Manono Lithium a déjà entamé ses activités et la société est entrée dans une phase de production industrielle selon certaines sources. Une première partie de la production est déjà disponible et stockée au port de Kalemi en vue de son exportation. Ce projet prévoit une production annuelle d'1 million de tonnes de concentré du lithium. Mais dès la première phase de production estimée à 500 000 tonnes par an, une part importante de cette production devra être transformée localement en sulfate de lithium avant d'être exportée par la voie lacustre pour alimenter le marché mondial des batteries et des véhicules électriques. Pour le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, cela va favoriser la création de l'emploi. Les gisements de lithium de Manono dans la province du Tanganyika est l'un des plus grands gisements au monde. Ses ressources sont estimées à plus de 400 millions de tonnes de minerais. Son exploitation industrielle est menée en partenariat avec l'État congolais, la Cominière et les géants miniers chinois Jixiang Lithium Limited. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire à Nitouri, les prestataires de santé travaillant au centre des traitements d'Ebola, CT, de l'hôpital général de référence de Rouenpara, ont durci leur mouvement de grève. Nous sommes lundi. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient des promesses non tenues du ministre de la Santé publique formulées lors de son dernier passage à Bounia concernant les paiements de leurs salaires et primes. Selon ces agents de santé, ces arriérés restent impayés depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola. Nous sommes le 15 mai 2026. Ils affirment avoir multiplié les revendications sans obtenir de réponses satisfaisantes des autorités compétentes. Entre-temps, les malades pris en charge au CTE se retrouvent abandonnés à leur triste sort. C'est un reportage de Martial Kiza Biamungu.
Ces prestataires de santé qui travaillent dans la riposte contre Ebola ont manifesté leur colère en brûlant des pneus devant l'entrée principale de l'hôpital général de référence de Rouenpara ce lundi. Parmi les revendications, les promesses non tenues du ministre de la Santé publique concernant les paiements de leurs primes et salaires malgré leurs sacrifices pour sauver des vies humaines. Les grévistes s'insurgent également contre les mauvaises conditions de travail qui les exposent à des risques de contamination de la maladie. Il conditionne la reprise du travail par le paiement de la totalité de leur rémunération. Des grognes similaires sont enregistrées dans d'autres centres de traitement d'Ebola dans les zones affectées par cette épidémie. Une situation qui risque de compromettre la prise en charge des malades et favoriser la propagation du virus, s'inquiètent des acteurs sociopolitiques. Nous avons tenté en vain d'avoir la réaction des responsables de la riposte à ces sujets. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Nous quittons Bounia pour nous rendre au Kasaï central. Avoir ces règles reste un sujet tabou dans plusieurs familles dans cette partie de la RDC. Certaines femmes et jeunes filles sont encore victimes des discriminations pendant leur menstruation. Pour combattre ces préjugés, des organisations de défense des droits des femmes mènent des campagnes de sensibilisation. Le point avec André Katendengala Mouloumé.
Dans plusieurs familles de la province, les règles restent un sujet dont on n'en parle presque jamais. Beaucoup de jeunes filles découvrent seules leurs premières règles. Sans information, elles vivent cette période avec peur et honte.
La première fois que j'ai eu mes règles, je me rendais à la source lorsque j'ai remarqué un écoulement de sang. J'ai d'abord cru que j'étais blessée. Je suis vite allée voir ma mère.
Pendant leur menstruation, plusieurs femmes disent subir des interdits. Elles ne peuvent ni cuisiner, ni participer aux cérémonies. Céline Kalanga témoigne.
Une femme qui est dans sa période de menstruation ne peut pas s'approcher de son mari, elle ne peut pas préparer, elle ne peut pas aller à l'église parce que c'est considéré comme un lieu saint.
Les organisations de défense des droits des femmes dénoncent ces pratiques. Elles estiment qu'elles portent atteinte à la dignité des femmes. L'ONG Dynamique Action pour la défense des droits des femmes, filles et enfants a lancé ce lundi un projet de promotion des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. L'initiative cible les communes de Lukonga et de Kananga ainsi que les territoires de Demba. Objectif, combattre les préjugés et renforcer l'engagement de toute la communauté en faveur des droits des femmes et des filles. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Merci André Katende. Nous allons partir à Kiwanja, dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu, où plus de 100 orphelins sont aujourd'hui abandonnés à leur triste sort dans la localité de Rubari. C'est après, bien sûr, la fermeture du centre d'encadrement de l'association Club Changer la Vie, asphyxié par la crise actuelle. L'organisation lance aujourd'hui un appel à l'aide en faveur de ses enfants, aujourd'hui livrés à eux-mêmes. C'est des détails avec notre conseillère Rosalie Zawadi.
Ce centre, qui était un véritable havre de paix pour les orphelins de la région, a dû fermer ses portes, terrassées par la guerre et les manques de moyens. À Robaré, les clubs Changer la Vie prenaient en charge plus de 100 enfants. Aujourd'hui, ils sont dispersés sans aucune protection. D'où cet appel à l'aide de Ouissa Bandina au janvier, les chargés des communications de l'organisation.
Nous sommes en train d'alerter sur la situation que traversent les enfants orphelins que l'organisation Club Changer la Vie encadré avant la crise. Ces enfants traversent une vie misérable. Pour le moment, Rubare, Kalengera enregistrent un grand nombre d'enfants orphelins. Nous invitons les organisations humanitaires de venir en aide à ces enfants car ils traversent un moment difficile.
Cette organisation espère une mobilisation rapide des autorités et des humanitaires pour permettre à ces enfants d'avoir accès aux soins, à l'éducation et à la protection. Le but est de leur redonner l'espoir d'un avenir meilleur. meilleur. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Plus de 51 000 déplacés vivent dans des conditions difficiles à Lubutu, dans la province du Maniema. L'association CRI des victimes du Congo pour les droits humains, CVCDH, qui tire la sonnette d'alarme, affirme que ces personnes sont sans assistance humanitaire. Dans un communiqué rendu, nous sommes le 12 juillet, l'ONG plaide pour une aide d'urgence en faveur de ces déplacés confrontés à une situation préoccupante. Florence Kizalunga pour plus de précisions.
Selon des informations confirmées par l'administrateur du territoire et la société civile locale, ces populations ont fui leurs habitations à la suite des violences signalées depuis le 6 juillet dernier après l'incursion de Wazalendo du général autoproclamé à Fani Bukuyu. Elles vivent aujourd'hui dans des conditions inhumaines qui nécessitent une attention urgente des autorités provinciales et nationales. Dans son rapport, le CVCDH fait état de 51 090 personnes déplacées, parmi lesquelles 1884 femmes enceintes, 10 022 femmes allaitantes, de nombreux enfants, des personnes âgées ainsi que des personnes vivant avec handicap, toutes confrontées à une situation de grande détresse. Face à cette situation, le CVCDH appelle le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection effective des populations civiles conformément à ses obligations constitutionnelles et internationales. L'association demande également le déploiement rapide d'une assistance humanitaire d'urgence en faveur des personnes déplacées et les autres victimes. Enfin, elle exige l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante, impartiale et crédible afin d'établir les responsabilités individuelles et collectives de toutes personnes impliquées dans ces violences. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Une forte présence militaire dans plusieurs quartiers de la ville de Kalemie a semé la peur parmi les habitants, nous sommes lundi. D'après les autorités militaires, les FRDC ont lancé une vaste opération visant à traquer les déserteurs, les infiltrés et les bandits dans la ville et ses périphéries. Paulin Munanga nous donne des détails.
Selon le FRDC, cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations de routine visant à renforcer la sécurité et maintenir un climat de vigilance dans la province du Tanganyika. En outre, prévenir toute menace susceptible de troubler l'ordre public et garantir la protection de la population. Le porte-parole du service de communication et d'information des forces armées à Kalemie annonce que certains de ces éléments interpellés seront traduits en justice. Sergent Aristote Chitamba.
Certains désinfiltrés, certains des déserteurs et certains des bandits urbains ont été acheminés à la prison centrale, notamment de Kalemie, en attente des poursuites judiciaires. À cela, le commandant qui j'ai avancé, ainsi que le commandant des opérations, recommande à la population de ne céder à aucune panique ni mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et vigilance dans la province du Tanganyika.
Les autorités militaires invitent par ailleurs la population à poursuivre sa collaboration avec les services de sécurité en signalant tout mouvement ou comportement suspect susceptible de menacer la paix et la stabilité de la province. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, les salons de coiffure connaissent une forte affluence des femmes et des jeunes filles en cette période de vacances. Nous sommes à Matadi, au Congo central. En vogue en cette période, les Rasta, une coiffure d'inspiration africaine réalisée à l'aide des mèches synthétiques. Pour la plupart des femmes, en tout cas, cette coiffure elle est très intéressante parce qu'elle s'adapte à la saison sèche. Parmi les clientes, cette coiffure protège le chevet tout en gardant la tête au chaud. Un engouement qui profite également aux coiffeuses et vendeurs des mèches dans cette partie du pays. Reportage d'Élise Kavira.
Dans les salons de coiffure à Matadi, les traits sont fortement sollicités en cette saison sèche. Les clientes se succèdent toute la journée, comme l'explique cette coiffeuse.
La saison sèche est une période particulièrement favorable pour nous, des mères ou des jeunes. Tout le monde vient se faire tresser, ce qui fait de cette saison une excellente période de travail.
Mais toutes les professionnelles de la beauté ne profitent pas de cette tendance de la même manière. C'est le cas de Ruth, coiffeuse, qui mise davantage sur la pose des perruques.
Avec les mèches, il est difficile de tresser 3 ou 4 personnes par jour, car une seule cliente peut prendre de 7h à 14h. En revanche, depuis que je pose des perruques, je peux recevoir jusqu'à 6 clients par jour.
Malgré cet argument de rapidité, de nombreuses clientes restent fidèles au Rasta qu'elles jugent plus pratique et plus durable.
Quand tu fais des Rasta, tu peux le garder même pendant 2 mois. Alors qu'avec une perruque, il faut souvent la retirer au bout d'une ou 2 semaines seulement.
Et cet engouement ne touche pas uniquement les femmes adultes. Les jeunes écolières profitent également de cette période de liberté pour se faire une beauté et changer un peu des nattes collées souvent exigées à l'école.
J'aime les vacances parce que je peux me faire tresser les mèches. Je trouve ça très joli.
Vous l'avez compris, à Matadi, la saison sèche marque aussi le grand retour des tresses à l'africaine, une tendance qui fait le bonheur des clientes comme des coiffeuses. Matadi. Elise Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président français Emmanuel Macron a présidé ce mardi pour la dernière fois les traditionnels défilés militaires du 14 juillet. Cette édition de 2026, voulue massive, a mis donc à l'honneur l'Ukraine et ses alliés essentiellement européens. Un défilé bien sûr XXL, près de 6700 troupes à pied, 98 avions, 31 hélicoptères et 315 véhicules ont paradé ce mardi 14 juillet sur les Champs-Élysées pour la traditionnelle parade militaire de la fête nationale de la France.
L'invité.
Notre invité est Crispin Bolela Barigenga, directeur du département en charge du développement communautaire de la société Kalima Mining Company. Il revient sur les différents projets réalisés par l'entreprise dans le cadre des cahiers des charges conclus avec les communautés locales pour contribuer aux actions de développement des initiatives qui sont mises en œuvre grâce notamment à cette collaboration avec les secteurs des BIA en territoire des Pangui dans la province du Maniema. Crispin Bolela répond aux questions de Florence Kizalunga.
Crispin Bolela, bonjour.
Bonjour, madame.
Kalima Mining Company a procédé au lancement de 3 projets communautaires en faveur de la communauté de Kalima en territoire de Pangui. D'où vous vient cette initiative?
Cette initiative nous vient des engagements que nous avons pris avec la population à travers le cahier des charges. Après l'exploitation, nous devons laisser quelque chose à la population d'où nous travaillons. Et donc, c'est dans ce sens que vous apprendrez que nous avons procédé au lancement des activités telles que la construction des écoles, des centres de santé, la réhabilitation de routes de dessertes agricoles, mais également l'adduction d'eau dans le creusage de puits et l'aménagement des sources en faveur de populations impactées dans le groupement de Sangue, Ulimba et Djoua, en territoire de Pangui, secteur de Beya.
Là, c'est en faveur de la communauté impactée par l'exploitation minière que vous êtes en train de faire. Vous pensez que vous allez vous arrêter à ces 3 projets?
Nous n'allons pas nous arrêter à ces 3 projets puisque dans le cahier des charges, il y a 11 projets qui sont alignés. Et ces 11 projets sont alignés sur une durée de 5 ans. Alors, si nous continuons l'exploitation, j'allais dire dans les secteurs de Beya, nous allons renouveler un autre cahier des charges pour une durée de 5 ans. Donc, on ne va pas s'arrêter là-bas.
Ces activités, c'est depuis 2023 que vous êtes en train d'exploiter les mines dans cette partie du territoire. Est-ce que lançant ces travaux, vous avez bien examiné avec les communautés?
Affirmatif. Donc c'est en décembre 2023 que nous avions signé le cahier des charges, mais l'intervention comme exploitation a commencé en 2024. Et les projets qui ont été listés là-bas ont été l'émanation de la population elle-même à travers le plan de développement local par le comité local de développement CLD. Et donc on a identifié les priorités de la population et c'est ça qui a fait l'objet de ces 11 projets tels que se coucher dans le cahier des charges.
Dans toutes les activités, il ne manque pas de difficultés en cas d'espèce pour vous. Avez-vous des difficultés dans la réalisation de ces projets?
Oui, nous pouvons rappeler que nous sommes dans une province très enclavée. À travers ça, nous rencontrons pas mal de difficultés par rapport à l'évacuation ou à l'acheminement de nos équipements. Comme par exemple, nous avons des équipements qui sont à Calémie et qui devaient venir par la SNCC. Ça fait une année et demie qu'ils sont là-bas et c'est ça qui devait nous aider à construire deux usines qui jusqu'à présent traînent à être construites et c'est ça qui retarde l'exploitation dont question ici.
Alors, vous avez des difficultés, vous n'avez pas encore procédé à l'exploitation. Là, vous parlez de l'exploitation industrielle.
Affirmatif, c'est l'exploitation industrielle où on avait prévu de construire trois usines. Mais à présent, c'est une seule usine qui est fonctionnelle et deux autres traînent à cause des équipements qui nous manquent et qui sont retardés à Calémie, faute d'acheminement par la SNCC, alors que tout a déjà été payé.
Est-ce que vous sentez l'appui du gouvernement ou bien des autorités provinciales dans ces actions que vous faites et la population bénéficiaire vous appuie-t-elle?
À dire vrai, nous sentons réellement l'implication des autorités locales, c'est-à-dire les autorités provinciales. Ils nous appuient, ils compatissent avec nous par rapport aux difficultés que nous rencontrons, puisque plusieurs fois, le gouverneur même a déjà mené une mission à Lubumbashi auprès du DG de la SNCC pour lui montrer les difficultés qui nous sont imposées par son service, la SNCC. Il a déjà écrit pas mal de lettres à la direction générale de la SNCC et ici on sent qu'il nous appuie puisque plusieurs fois on a rencontré des difficultés avec des services de l'État qui ne comprenaient pas que nous sommes en train de faire du développement local et qui voulaient retarder l'exécution de nos projets, mais le gouverneur s'est interposé pour leur demander de nous faciliter la tâche plutôt que de nous bloquer.
Qu'en est-il de la population?
La population, effectivement, il faut une sensibilisation. Dans tout développement local, il faut de la sensibilisation. On sent qu'ils traînent encore les pieds, ils traînent à nous accompagner, mais on est en train de les prêcher, les sensibiliser pour qu'ils s'approprient les projets. On ne peut pas parler de la contribution locale, mais l'essentiel, c'est de l'appropriation, c'est la conscientisation des résultats pour leur pérennité, quoi.
Crispin Bolela, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Merci également à vous, à Florence Kizalunga. J'ai dit également merci à Jean Gandou pour la supervision de cette édition. Coordination de Élisée Chikota. Alain Goy était à la partie technique. René Ling, Tibonera, Idi Amin. C'était bien moi la présentation.